La traduction de la Bible comme aventure œcuménique, je vais vous parler des traductions interconfessionnelles. C'est seulement une partie de l'aventure œcuménique. Le mouvement œcuménique, l'œcuménisme aujourd'hui, c'est plein de niveaux. On aurait pu parler de la dimension institutionnelle, ces dialogues là, dont j'ai fait partie, là, entre, voilà, très officiellement au sommet, entre telle et telle confession. Il y a l'œcuménisme spirituel, hein, quand on prie ensemble, quand on va le faire à la célébration, l'œcuménisme des couples mixtes. Voyez, il y a des tas de formes d'œcuménisme, l'œcuménisme de la solidarité, comme les couloirs humanitaires pour les migrations. Voilà, on a plein d'œcuménismes, mais là, donc, c'en est un. C'est du coup, si vous voulez, les traductions œcuméniques. Parce que finalement, toutes les autres, elles ont aussi en point commun la Bible. Donc c'est important de revenir à cette question centrale. Et pour honorer là, du coup, ce cadre œcuménique qui est notre aujourd'hui, je voudrais nous rappeler un moment incroyable, la première fois qu'on a dit le Notre Père ensemble en langue française. Ça nous paraît absolument évident. Tout à l'heure, on va sûrement prier ensemble. Mais en fait, c'est pas si vieux que ça. Et moi, j'ai rencontré des personnes qui l'ont vécu, ces premières fois où on a pu dire ensemble le même texte du Notre Père. Parce qu'avant, chaque confession avait sa prière, avait sa traduction. Et il a fallu attendre que des spécialistes se mettent ensemble, du coup, dans les années 60, un groupe d'experts, et préparent une traduction qui soit commune, qui soit ni celle de la TOB, ni celle de la BJ, ni celle de la Second, vous voyez, mais qui soit commune, et qui est devenue, du coup, en langue française, dans notre francophonie, le même texte. Et quand on a pu dire ensemble « Notre Père », ben là, on a dit quelque chose de tellement fort, justement, ben du coup, ça nous place tous au même plan d'être tous des enfants, là, du coup, des enfants du même Père, fils et filles, voilà, sœurs et frères. Et ça a été très fort. Et ça, vous voyez, ça a été le rôle d'une traduction. Jusque-là, on disait chacun sa traduction. Et encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays, en Allemagne, comme ça, vous avez chaque confession, si vous voulez, à son habitude. Et quand on fait une célébration œcuménique, on dit, bon, alors laquelle on choisit cette fois-ci? Il n'y en a pas une en commun. On se rend compte de ce que ça veut dire. Voilà, là, on en a une en commun. Alors, on a dit, elle est critiquable, elle est voilà, mais on en a une en commun, c'est seulement depuis les années 60, quand même. Donc, ça, c'est très important. Alors, pour parler des traductions, on dit œcuménique ou interconfessionnelle. Il faut que je vous les présente dans le kaléidoscope plus large des traductions en langue française, d'accord ? Donc, on a la chance qu'il en existe une vingtaine encore disponibles aujourd'hui en librairie. Hein, je vous les présente brièvement et on situera du coup les interconfessionnelles là-dedans. On a des Bibles en langue française depuis le XIIIe, hein, d'accord ? Donc, c'est pas mal. Donc, on a des Bibles juives, spécifiquement juives, la Bible du rabbinat qui est officielle, Chouraki, hein, qui essaye. Certains ont essayé Chouraki, hein, vous voyez, voilà, qui essaye de nous rendre justement le concret des images de l'hébreu, hein, avec le glébeu d'Adam, Méchonique, qui nous remonte la mélodie aussi des mots, et David Stern, beaucoup plus critiquable là, ici, sur, voilà, par rapport à certains choix. Ensuite, pardon ? Alors, ça dépend. Chouraki s'est lancé dans un nouveau, mais c'est très contesté parce que le nouveau est écrit en grec. Donc son intuition hébraïsante, elle porte une limite. Je trouve que c'est moins pertinent sur le nouveau. Il a fait les deux. Il a aussi fait le Coran, il a tout fait en fait. Hein. Donc voilà. Donc, mais les autres sont seulement anciens. Tanakh. Voilà. Les Bibles catholiques, je parle là de celles qui seraient encore aujourd'hui disponibles, hein, voilà, d'accord. La plus historique, là, Port-Royal, Crampon, Bible de Jérusalem, c'est l'officiel, Ostie, qui est encore très bonne pour ses notes, même si la langue, du coup, est plus vieillie, Maretsu, et la toute dernière, la plus récente, la liturgique, celle qu'on lit, du coup, voilà, en église, à la messe. Les Bibles protestantes, la première en langue française, Olivetan, et puis ensuite, elle va être révisée et adoptée d'autres noms. C'est la Bible de Martin, c'est la Bible d'Osterwald. En général, dans nos temples, c'est la Bible d'Osterwald, hein, que vous voyez, d'accord ? Castellon pour une très belle langue, Darby, Second et tous ses dérivés, Semeur, du coup, pour l'une des plus récentes, là, du côté protestant. Et puis, autre, il y a aussi des Bibles non confessionnelles, je pense à la Pléiade, hein, dans la très belle collection de la Pléiade, ou la Bayard, qui est la Bible des écrivains. D'accord ? Et donc voilà, là-dedans, il y a aussi donc, maintenant les traductions œcuméniques interconfessionnelles, c'est-à-dire que les équipes de traducteurs viennent de toutes les dénominations chrétiennes, et c'est ensemble qu'on traduit le texte, qu'on choisit les notes, les titres. Vous savez que les titres, hein, ce n'est pas dans les manuscrits les plus anciens, c'est une décision de traducteurs, d'éditeurs. Alors, c'est assez récent comme phénomène. Ce sera la TOB la première, hein, et puis Français courant, Parole de vie et Nouvelle Français courant, parce qu'il a fallu attendre Vatican II C'est Vatican II avec Dei Verbum, donc 1965, qui ouvre la porte à des traductions avec les frères séparés, avec d'autres chrétiens. Il a fallu une décision officielle, si vous voulez, d'en haut, hein, pour que ce soit autorisé. Et il y a cette déclaration des pères conciliaires. Les Écritures saintes, je vous l'ai lu tout à l'heure, sont, dans le dialogue œcuménique, des instruments remarquables. Et du coup, on a voulu les encourager. On a fait d'abord donc, une déclaration de principe, et il y a eu ensuite, on va dire, des conventions beaucoup plus détaillées sur, bon, alors du coup, comment ça va se passer s'il y a un projet interconfessionnel, qu'est-ce qu'on fera, etc. Ça s'appelle « Principe directeur pour la coopération interconfessionnelle dans la traduction de la Bible ». Et c'est régulièrement mis à jour entre le Vatican et les sociétés bibliques, l'Alliance biblique universelle, d'accord ? Ça permet du coup de... C'est balisé. Quand vous vous lancez dans un programme comme ça, c'est balisé. Hein, voilà. On va mettre les livres deutérocanoniques où, dans quel ordre, etc. Vous voyez, c'est ce genre de décision. Donc, la plus connue, donc, c'est la traduction œcuménique de la Bible. Qui c'est qui a une tobe chez lui ? Bah oui, hein. Voilà, la tobe qui a déjà plus de 40 ans. Donc, la première sortie 1972 pour le Nouveau Testament, 75 pour l'Ancien. Et puis en 88 et en 2010, des révisions. Et en fait, ce n'était jamais des révisions complètes, c'était des révisions que partielles. Donc là, on s'est lancé dans une nouvelle révision. Et alors, je vous la fais passer, vous allez voir, parce qu'il y a aussi un... Ah, je l'ai peut-être là, voilà. Regardez, c'est une nouvelle présentation, mais je vous la fais passer. C'est pour Galates. Et vous allez voir que donc, le texte est au milieu, d'accord ? Et vous avez les commentaires tout autour, les notes tout autour. À la manière, alors on peut faire suivre, hein, voilà, je vous en ai emmené un exemplaire, Philippe. À la manière d'un Talmud, dans la tradition juive aussi. Hein, vous avez le texte biblique, un peu plus gros, et puis tout autour, parce qu'on a vraiment beaucoup de notes, c'est vraiment une Bible d'étude, hein, la Tobe, avec les notes tout autour, en un tout petit peu plus petit, avec comme nouveauté d'associer des théologiens juifs, pour aussi avoir une main tendue envers le judaïsme. Alors sur Galates, qui est déjà sorti, c'est passionnant, parce que Galates, c'est tout le rapport à la loi, et donc c'est très intéressant le débat judaïsant, anti-judaïsant, voilà, d'avoir aussi des rabbins qui ont participé pour les notes. Hein, d'accord. La traduction, ils n'avaient pas grand-chose à changer, mais c'était pour les notes, vous avez vraiment des choses intéressantes à dire. Donc voilà, là, il y a une future révision qui est en cours. Osée et Galates sont déjà sortis, ils sont en train de faire les évangiles et les psaumes. Voilà, ils vont faire petit à petit, livre par livre. Donc ça, ne vous étonnez pas si vous voyez sortir, hein, du coup... si vous voyez sortir ça. Alors, la Tobe, c'est parti d'une intuition, en fait, d'amis, de chrétiens, très engagés en œcuménisme, de se dire, mais quand même, quand on se retrouve, on arrive chacun avec notre Bible confessionnelle. Le protestant de service avait sa seconde, et le catholique, sa Bible de Jérusalem, et ça mettait une limite à la discussion et à l'échange. Et ils se sont dit, et ça c'est très intéressant, ça part du terrain. Soyons encouragés, des initiatives qu'on prend, en fait. Parce que ça part du terrain. C'est deux personnes, deux amis, là, si vous voulez, André Morel, pasteur protestant, et Jean Starkis, savant catholique, qui se disent, mais vraiment, quel regret de ne pas avoir de Bible commune. Il faut qu'on essaye quelque chose. Et ils vont commencer, et c'est ensuite que Vatican II donne un feu vert, on va dire. Ils avaient déjà commencé leur travail. Ça va donner un coup d'accélérateur. Mais vous voyez, c'était précurseur, pionnier, en langue française, hein, d'avoir cette initiative-là. Et ils se sont dit... On va commencer par l'Épître aux Romains. Parce que c'est là-dessus qu'on s'est le plus disputé, c'est là-dessus que Luther se convertit. Et si on y arrive sur Romains, ça marchera pour tout le reste. Un peu comme, pardonnez l'image, la tête du bébé qui sort. Si la tête sort, après, tout le reste sort. Ils se sont dit, Romains, c'est vraiment comme la tête du bébé. Si on y arrive avec Romains, on y arrivera pour tous les autres livres. Ça, c'était intéressant, du coup, qu'ils commencent par Romains. Et la découverte de ces pionniers, eh bien donc ensuite ils ont constitué des équipes, hein, pour chaque livre, etc. Ils avaient prévu des comités d'arbitrage, c'est-à-dire si l'équipe de traduction, un catholique, un protestant, n'arrivait pas à se mettre d'accord, hop, on pouvait faire appel au comité d'arbitrage. Ils n'ont jamais eu à faire appel au comité d'arbitrage. Ils ont réussi toujours, d'abord parce que le texte résiste, hein, ce qu'on disait aussi, voilà. Et en fait, ils arrivaient toujours à trouver une formulation sur laquelle les deux ou les trois puissent s'entendre. Bon, je ne l'aurais peut-être pas dit comme ça, mais je reconnais qu'on peut le dire comme ça. Oui, ça correspond au grec ou à l'hébreu, même si, moi, spontanément, je l'aurais peut-être traduit autrement. Vous voyez, on arrive à trouver un terrain d'entente, j'allais dire neutre, mais je suis en Suisse, alors voilà, mais hein, un terrain neutre, où tout le monde s'y reconnaît. Je ne l'aurais peut-être pas dit comme ça ou choisi comme ça, mais je reconnais que le texte peut vouloir dire ça. Et ça, c'est intéressant. Donc, les comités d'arbitrage n'ont pas eu à intervenir. Et donc, on a fini par arriver à cette traduction et les textes et les notes. Avec un bémol, c'est du coup le professeur Dreyfus qui souligne ça. Il est vrai qu'on a réussi à trouver l'accord hein, sur les traductions et les notes, mais avouons quand même que parfois, on sait qu'on a choisi un terme alors qu'on ne met pas la même chose derrière ce mot-là. On s'est mis d'accord pour choisir ce mot-là, mais on sait très bien qu'on ne met pas la même chose derrière ce mot-là. Donc, il faut être honnête et dire, voilà, hein, c'était, voilà, on a pu s'entendre, mais on sait qu'on emploie ce mot-là, mais chacun arrive avec son bagage, sa tradition par rapport à, évidemment, baptême. On est tous d'accord pour traduire baptême, mais la baptiste ne va pas dire la même chose que le luthérien ou que le catholique. Voilà. Mais c'est bien le mot baptême, et tout le monde est d'accord que ce soit le mot baptême. Mais c'était bien une première étape quand même qui était importante. Donc, quand ils ont réussi hein, le succès avec Romain, hop, ils ont lancé pour tous les autres livres, constitué toutes les équipes, et du coup, ça a permis, je vous disais, 72, le Nouveau Testament, 75, l'Ancien Testament. La TOB, c'est un vrai succès dans toutes les confessions, dans toute la francophonie, c'est 2,5 millions d'exemplaires. Hein, donc du coup, dans toutes les éditions ici, et encore chaque année, 80 000. Donc ça continue à être, je vois en France, hein, vous savez, on est très sensible sur la laïcité, l'éducation nationale choisit la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, quand il faut parler de la Bible dans les programmes et citer la Bible, voilà, on se dit, bon allez, il en faut une sur laquelle tout le monde est d'accord, et du coup, c'est la TOB qui a rempli ici, qui a rempli ça. Et aujourd'hui, la TOB, elle inspire plus de 600 projets œcuméniques dans le monde. Il y a des tas de pays où il n'y a pas de traduction œcuménique, et on se sert de la TOB et on traduit la TOB. Et j'ai rencontré des équipes de traducteurs hein, qui, du coup, des fois, ils ne peuvent pas aller directement au grec ou à l'hébreu. Et ils se servent, du coup, ils traduisent en fait aussi cette TOB. Alors, la TOB était vraiment innovante. À sa première sortie, il y avait trois nouveautés qui, à l'époque, ont vraiment fait beaucoup discuter. L'ordre des livres, on l'a vu tout à l'heure dans le tableau. La Bible, la TOB a choisi l'ordre hébraïque. Et c'est pour ça qu'on est un peu perdu la première fois qu'on arrive dans sa TOB. Quelqu'un me disait, j'ai mis des onglets. Voilà, bah oui, parce que la première, voilà, parce que c'est l'ordre de la Bible hébraïque. Ils ont fait ça en main tendue envers le judaïsme, pour l'amitié judéo-chrétienne. On est dans les années 60, hein, et c'est pas si vieux la Seconde Guerre mondiale. On a bien conscience quand même que c'est certains enseignements chrétiens qui ont nourri aussi un antisémitisme, hein, qui fait que bon, bah, finalement, les juifs, ils étaient déicides. Donc peut-être qu'à quelque part... Vous voyez, ils savaient bien, hein, on était en train de faire un droit d'inventaire sur les enseignements, prendre sa part de responsabilité par rapport au drame de la Shoah. Et du coup, ils se disent, comment tendre la main au judaïsme ? Eh bien, voilà, l'ordre des livres. C'est une manière aussi hein, de dire, voilà, l'ordre des livres ici. Il y a eu aussi le choix de mettre des notes. Ça vous paraît évident qu'aujourd'hui, dans votre Bible, il y ait des notes. Mais il faut savoir d'où on vient. Il faut savoir qu'en protestantisme, ça ne se faisait pas. On avait peur d'un crypto-catéchisme. Donc, on refusait les notes. Dans les Bibles protestantes d'Arby, second 1910, il n'y a pas de notes. C'est très récent, c'est vraiment une génération depuis, pour qu'on ait des notes dans les Bibles protestantes. C'est très récent. Et du coup, quand elle sort, là, dans les années 70, 70, il n'y a pas encore les notes dans les Bibles protestantes. Donc, les protestants veulent une TOB sans notes. Et ils l'obtiennent. Et donc, il y a une édition avec notes et une édition sans notes, à cause de la tradition protestante, qui, à l'époque, n'avait pas de notes. Bon, aujourd'hui, toutes les traductions protestantes ont bien compris l'intérêt, quand même, d'avoir des notes pour expliquer l'archéologie, l'histoire et tout. Et donc, eh ben, ça ne gêne plus personne qu'on ait des notes. Et vous voyez, dans la France des courants, on a mis des notes. Voilà. Mais il faut comprendre, hein, voilà, le choix d'avoir des notes, c'était aussi important ici, hein, d'accord ? Et puis, il y avait la présence donc, des deux terreaux canoniques ou apocryphes. Ça, c'était non négociable. Il n'y a pas une TOB avec deux terreaux et une TOB sans deux terreaux. Voilà, de dire, non, on va découvrir le canon de l'autre. On va découvrir ça. Donc, je vous ai dit, la réception a été une grande réussite. Et le fait d'avoir une même Bible a été un signe tangible d'unité, si vous voulez. Hein. C'est, au monde, la seule traduction œcuménique où il y a le texte et les notes faits ensemble. Ça nous paraît évident que c'est le béaba de l'œcuménisme. Eh ben non, dans les autres pays, Einheim, Supersetzung, tout ce que vous voulez, on a le texte en commun, mais on n'a pas de notes en commun. On a réussi à se mettre d'accord sur un texte, mais pas les notes. Là, on a texte et notes. Parce qu'on se rend compte, hein, du coup, du caractère pionnier là, de la langue française. Hein. Et vous avez des Suisses, évidemment, dans les collaborateurs. Hein. On parle francophonie, donc c'était français et suisse, hein, ici. Hein. Voilà pour la TOB. Ensuite, vous avez eu donc la français courant, et puis ensuite révisée en nouvelle français courant. Donc la français courant, elle me tient très à cœur, c'était la première version française à être à équivalence dynamique, ce que je vous ai partagé tout à l'heure. Hein. TOB est plus littéral. La français courant, c'est équivalence dynamique, on privilégie la langue réceptrice. Comment on le dirait en français, d'accord ? Le Seigneur ne sonde pas les reins, il perce le secret des consciences, d'accord ? Donc, pour la révision de la nouvelle français courant, 60 collaborateurs de toute la francophonie et dont la Suisse aussi, évidemment, donc Bible interconfessionnelle. Et ce qui m'a vraiment réjoui, c'est que pour la première fois, dans les 60 collaborateurs, bon, il y avait une dizaine de femmes déjà, ça c'était bien. Ce n'est pas le cas hein, dans les autres. Bah oui, ils avaient choisi une chef de projet, donc ça a permis d'avoir un souci de ça. Donc il y avait 10 femmes sur les 60, et puis aussi 10 évangéliques. Et c'est la première fois que des théologiens évangéliques rentraient aussi dans un projet de traduction interconfessionnelle. On avait des luthériens, des réformés, des catholiques, des orthodoxes, mais voilà, les évangéliques, le mouvement œcuménique, ils y rentrent petit à petit, hein, à part à Mérin où on était pionniers, évidemment. Mais sinon, hein, c'est beaucoup plus progressif. Et du coup, ben voilà, le fait d'avoir une dizaine de réviseurs évangéliques dans un projet comme ça, ça dit qu'ensuite, ils vont en parler de cette Bible, ils vont l'utiliser, ils ne la critiqueront pas, ils en ont fait partie. Donc, voyez. Et du coup, ça a permis la réception aussi en milieu évangélique d'avoir des professeurs de Vaux-sur-Seine qui ont participé. Voilà. Donc ça a permis ce pont-là aussi. C'est sans doute à l'image du mouvement œcuménique actuel hein, qui essaye aussi d'intégrer de plus en plus ces églises-là, hein, qui sont encore prudentes par rapport au mouvement œcuménique. Hein. Oui, bien sûr. La chef de projet. Ah, ça compte pour combien, ça ? Mais sinon, tu as raison, il n'y en avait pas d'autres. On est d'accord. Mais bon, je ne veux pas être l'arbre qui cache la forêt, je veux en encourager d'autres, mais c'est vrai que c'était... Non, c'était... Voilà, ça n'a pas été possible de... Pourquoi ? Parce qu'il fallait quelqu'un qui ait son doctorat. Non, mais il y a des critères très précis. Il fallait être docteur. Moi, je suis la première femme évangélique française à avoir mon doctorat. C'était il y a 10 ans. Ça paraît... Voilà, mais il n'y en avait pas. Les autres, elles sont étrangères, ou alors c'est pas en théologie, mais voilà. Donc, de fait, ça explique. Il y en a quand même encore très peu qui ont leur doctorat, qui enseignent et qui sont reconnus par le... Il faut des gens qui soient incontestés, incontestables, qui sont une référence dans leur domaine. Donc, c'est vrai que les 10 autres que j'ai trouvés sont plutôt... Pas faute d'avoir cherché. Hein. Plutôt des hommes. Ou alors, elles étaient... Voilà, ouais. Ça va ? Ouais. Voilà, donc du coup, on a travaillé et le texte et les notes, et alors on a révisé celles qui avaient déjà 30 ou 40 ans, parce que la langue a évolué, je vous ai raconté la bête tarée. Je me souviens aussi, il y avait un titre, je vous dis les titres, c'est les décisions de traducteurs. Hein. Il y avait un titre pour un passage dans les évangiles qui s'appelait « La Sainte Cène ». On avait laissé passer ça à l'époque. Bah oui, mais ça c'est une terminologie protestante, ça marche pas pour les catholiques. Alors, comment on allait faire ? On n'allait pas mettre l'Eucharistie. Là, ça ne marchait plus pour les protestants. Ben là, on se replonge dans le texte. Le dernier repas du Seigneur. Et on trouve un titre qui va convenir à tout le monde et qui n'est pas étiqueté, vous voyez, protestant ou catholique. Comment vous appelez, en fait, le repas du Seigneur chez vous ? La scène, l'Eucharistie. Voilà, hein, on essaie de trouver un titre qui convient ici, une terminologie qui convient à tout le monde. Et puis ensuite, alors du coup, voilà, la parole de vie. C'est la fille de la français courant. Ils sont partis de la français courant et ils l'ont simplifié. C'est du français fondamental, 3000 mots, tout au présent, des phrases courtes. Et donc, c'est pour ceux dont le français n'est pas la langue maternelle. Et donc, voilà ça. Et là, il n'y avait que des femmes dans l'équipe de révision, Elsbeth Scherer, etc. Donc ça, c'était intéressant. La jeune sœur de la français courant. Alors, on va essayer ensemble, on va toucher du doigt ensemble, on va faire un autre exercice. Sur un passage, vous allez voir, d'un Corinthien, on va regarder plusieurs traductions. Comment est-ce qu'elles ont rendu aussi un passage ? Et comme à Paris, on prépare les JO, vous m'excusez, j'ai choisi un texte sportif. Voilà, je me suis dit, Paris 24. Non, sur l'heure de la sieste, je me suis dit que ce serait bien de prendre aussi un texte qui parle du corps et d'infliger une discipline à son corps. Vous allez voir, c'est 1 Corinthien, du coup, 1 Corinthien 9. Ça va vous faire toucher du doigt à nouveau les présupposés des traducteurs et vous allez voir, donc vous allez partir à la rencontre de ces différentes Bibles, d'accord ? Vous, avec votre voisin, votre voisine, vous lisez ensemble les différents passages et essayez de voir les différences, comment le même mot est rendu de façon très différente dans ces différents passages. Est-ce que vous avez l'air mortifié ? Laissez-moi regarder.
C'est une très gentille mortification.
Ouais. Voilà, 5 traductions différentes, certaines interconfessionnelles, sur un même passage. Et on n'a pas l'impression qu'elles parlent tout à fait de la même chose. Hein. Certaines, on s'est servi de leur traduction pour défendre, pour parler de perte du salut.
Ouais.
Puisqu'on parle d'être réprouvé, hein, d'accord ? Donc, et d'autres nous parlent de sport, hein, que de sport. Donc qu'est-ce que vous avez remarqué ? Donnez-moi un exemple ou deux des différences de mots très très marquées.
Moi, c'est la top qui m'a surpris.
Oui.
Je suis habitué à la top, je dois dire, à un certain niveau de langue un peu plus élevé.
Oui, c'est littéraire. Oui.
Et puis là, il y a l'aveuglette, ce qui pour moi, c'est un peu...
Oui. Ouais, je comprends. Alors pour le coup, on va voir, c'est ceux qui parlent de boxe qui ont raison, parce que c'est vrai que c'est un terme du coup qui nous parle de la boxe pugilat qui existait à l'époque dans les jeux du coup olympiques, hein, voilà, dans les jeux athlétiques. Mais on va en reparler, hein. Ouais. Ah oui, j'ai pas. Bah, oui, ça correspond. Eh oui. Alors regardez le tout dernier mot par exemple. Qu'est-ce que vous avez remarqué sur le tout dernier mot ? Est-ce qu'on est réprouvé,
ouais,
ou rejeté, éliminé ? Disqualifié. Ah, oh, on dit pas la même chose si on est réprouvé ou disqualifié quand même, hein. On dit pas la même chose, vous voyez. Et est-ce qu'on court dans la lice? On dit encore être en lice ou ne plus être en lice. Ah ouais, c'est une vieille expression, mais hein, ou dans le stade. Vous voyez, là, c'est une différence de niveau de langage, hein, plutôt de désuet ou pas désuet. Mais pour les autres, c'est théologique. Réprouvé ou disqualifié, ça, c'est théologique. C'est pas une différence de niveau de langage. Hein. Alors ici, ce qui se passe, c'est que Paul, on est aux Corinthiens, il est en train de leur dire qu'il se fait tout à tous pour atteindre son objectif, grec avec les grecs, voilà. Il se fait tout à tous. Qu'est-ce que je peux trouver comme exemple pour expliquer aux Corinthiens qu'on se donne tous les moyens pour atteindre son objectif ? Ah oui, le sportif. Parce qu'il a vécu avec eux les jeux ismiques, l'équivalent des jeux olympiques, hein, de l'époque, et donc... Il rentre dans leur carte, il fait de la PNL, hein, et il se met à parler leur langue. Il n'utilise que des mots de sport. Vraiment, c'est que du vocabulaire en grec de sport. Et quand un traducteur s'éloigne du registre du sport, alors c'est qu'il interprète. C'est que du sport. Et là, ici, celle qui est la plus littérale, c'est la baillard. Alors que souvent, elle est très critiquable, mais là, pour le coup, elle a respecté le registre du sport. Oui, Philippe ? Là, il parle de sport, voilà. Exactement. Et ça, c'est la clé, Sylvain. Là, si c'est que du vocabulaire de sport, le stade, la couronne, l'entraînement, les règles, disqualifier, que des mots de sport. Si vous lisez un article dans un journal sportif et qu'on vous dit que les rugbymen là, s'entraînent et s'infligent une discipline, bah, vous savez qu'ils ne sont pas en train de se mortifier. C'est plutôt que, pour atteindre leur objectif, ils s'infligent une discipline sportive. Et ici... Ça n'est pas enseigner un mépris du corps en soi. Il donne une image sportive qui illustre l'idée qu'il s'est donné tous les moyens pour accomplir son objectif. Et vous voyez comment les choix des mots, dès qu'on quitte le registre sportif, on arrive du coup à un registre beaucoup plus théologique, de réprobation, de réprouvé, qui n'est pas ici dans ce qu'il voulait dire. Hein. On quitte le sport. Et le terme de boxe, en effet, c'est vraiment c'est l'opercute. C'est vraiment le mot technique en grec pour la boxe de l'époque, en fait. Hein. Et les traducteurs qui le respectent sont bien dans le vocabulaire sportif. Mais vous voyez cette phrase « je mortifie mon corps ». On s'en est servi dans certains milieux comme slogan pour légitimer un mépris du corps. Et dire que le corps, il faut s'en méfier, le corps est pour la débauche, le corps, c'est, vous voyez, une méfiance du corps et qui, en fait, est une influence de Platon et de la philosophie grecque plus que de l'Évangile. Dans l'Évangile, le même Paul, au même Corinthien, va leur dire que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez ? Et donc, on a, dans certains milieux, utilisé, instrumentalisé le « je mortifie mon corps ». la sanctification ou la mort, enfin, je mortifie mon corps, vous voyez. Donc je voulais vous faire toucher du doigt à nouveau hein, l'influence que les traductions peuvent avoir sur nous, et qu'un excellent antidote, vous l'avez expérimenté, c'est d'en comparer plusieurs. D'en comparer plusieurs. Là, tout de suite, on ferme certaines portes. On arrive, on dit, ah bah oui, c'est du sport. C'est du sport, vous voyez. Et les notes, vous le direz aussi. Hein, d'accord. Donc voilà, c'était pour vous faire toucher ça, et que là, les interconfessionnels s'étaient quand même mis d'accord aussi sur... sur le sujet ici, hein, si vous voulez. Hein. Alors, il y a Paul qui écrit une lettre qui répond à une situation spécifique, celle des habitants de Corinthe, et qui, dans son déroulé, a une phrase, a une idée forte qui est « Il faut se donner tous les moyens pour accomplir sa vocation. » Et il veut donner un exemple, l'exemple du sportif. Et nous, si on prend l'exemple pour l'idée, il y a un problème. L'exemple n'est qu'un exemple, il faut revenir à son idée. Et son idée, qui est illustrée par l'exemple, c'est il faut se donner tous les moyens pour arriver, pour remplir sa vocation. Lui, il est évangéliste, et il dit, ben, je me fais grec avec les grecs, juif avec les juifs, je me donne tous les moyens. Et moi, quelle est ma vocation? Elle est différente pour chacun d'entre nous, hein, selon les dons qu'on a reçus. Et comment je me donne les moyens de remplir cette vocation-là? Est-ce que je me forme? Est-ce que je rencontre d'autres qui ont cette vocation-là? Voilà. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et le sportif n'est qu'un exemple. C'est ça dans les épîtres. Il faut toujours se demander si c'est littéral ou figuré. Là, c'est du figuré, c'est une image. Quand vous tombez sur une image dans les épîtres, cherchez quelle est l'idée qui est illustrée par l'image. Et ça vous aidera à trouver du coup l'actualité, le sens. Voilà. L'erreur serait de prendre l'image pour l'enseignement et de dire « bah oui, ça nous enseigne le mépris du corps ». Ah non, là, on serait complètement à côté de la plaque. Alors, je voudrais vous montrer de façon plus particulière, du coup. Alors, pardon, voilà. Les passages qui ont été difficiles à traduire. Qu'est-ce qui est difficile à traduire ensemble? Il y a des passages un peu plus... un peu plus sensibles, on va dire, d'accord? Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, il y a des passages évidents que je ne reprends pas. Je vous ai parlé d'Éternel et Seigneur. Hein, évidemment, il faudra... dans une traduction interconfessionnelle, ce sera Seigneur, parce que c'est, du coup, l'accord. Hein, on se rend bien compte que la traduction éternelle... elle a été quand même très orientée. Il y a un autre lieu où vous pouvez tout de suite voir si c'est une Bible protestante ou catholique. C'est le prologue de Jean. Au commencement, était... ouais, et après, du coup, la parole ou le verbe. Et la parole s'est faite chair, ou et le verbe s'est fait chair. La parole, ce sera protestant, le verbe, ce sera catholique à cause du verbum de la Vulgate. Donc là, c'est un lieu qui, tout de suite, si vous découvrez une Bible dans un grenier, voilà, vous allez tout de suite au début de Jean et vous verrez. Hein, d'accord ? Donc, est-ce que c'est parole ou est-ce que c'est verbe ? Mais sinon, dans celles qui ont été, qui ont fait discussion, si vous voulez, le Magnificat. Alors, il y a plusieurs choses dans le Magnificat. Tout de suite, ça a été la salutation, l'annonce à Marie. Marie est-elle active ou passive dans la réception de la grâce ? Toutes les versions de la Bible depuis Jérôme faisaient dire à l'ange saluant Marie... Je te salue, toi qui es pleine de grâce. Je te salue, faisant le lien du coup avec la prière, hein, d'accord ? Je vous salue, Marie. Mais surtout, toi qui es pleine de grâce. Et il y avait même des traductions catholiques qui disaient « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu ». Vous voyez, on monte encore d'un cran. Du côté grec, on a un simple passif, hein, « Réjouis-toi, toi qui as été l'objet d'une grâce ». La réforme arrive, et en réaction, donc traduction de « réaction », contre le rôle jugé excessif attribué à Marie dans l'Église catholique, les versions protestantes vont vouloir marquer le coup et elles diront « Je te salue, toi qui es reçu en grâce ». Pour bien souligner que Marie aussi doit faire l'objet d'une grâce, toi qui es reçu en grâce. Et donc, on est allé plus loin que le texte. Vous voyez, on a accentué quelque chose. C'est ce qu'on appelle une traduction de réaction ici. Hein. Et donc, du côté des traductions interconfessionnelles, aujourd'hui, on va être plutôt « Le Seigneur t'a accordé une grâce hein, ». Voilà, ce sera plutôt dans ce registre-là. Ou la Tobe, toi qui as la faveur de Dieu. On remarquera que Luther avait refusé « pleine de grâce », non pas à cause de Marie, mais parce qu'il disait que cette expression est trop littérale et qu'elle lui fait penser à un fût plein de bière. Donc, il n'en voulait pas. Alors, il y aura aussi la traduction ici de « épiscopos ». Comment est-ce qu'on va rendre évêque, surveillant, en acte 20-28, par exemple ?« Prenez soin de vous-même et de tout le troupeau dont l'Esprit-Saint vous a établi les gardiens. Soyez les bergers de l'Église de Dieu. » Et là, voilà, c'est le genre de truc de passage où on va débattre, du coup, hein, est-ce que c'est soyez les évêques, soyez les surveillants, soyez les responsables, soyez... Ah, si je mets évêque tout de suite, vous voyez que ça rattache à une certaine ecclésiologie. Hein, alors que c'est vrai que le mot l'épiscopé, hein, c'est le fait de surveiller, d'accompagner, de diriger, c'est très large. Ça ne renvoie pas seulement à une fonction, mais plutôt, ça ne renvoie pas juste à un poste, mais à un ministère, hein, bien plus large. Et là, évidemment, il y avait débat, hein, pour voir comment est-ce qu'on allait rendre ça. La photo qui est là, c'est à Notre-Dame, pour la COP21, quand elle était à Paris, célébration œcuménique. La préséance veut qu'il y ait un protocole, donc, et c'est le plus gradé de tous ceux qui sont là qui fait la lecture de l'Évangile. Ah, la manque de bol. La plus gradée, c'était l'archevêque de Suède, d'accord ? Et donc, c'est elle qui a fait la lecture de l'Évangile dans Notre-Dame. C'est la première fois, dans des siècles et des siècles, il y a une femme qui lisait l'Évangile dans l'ambon à Notre-Dame. Et ils étaient obligés, ils étaient pris au piège de leur propre protocole, en fait, si vous voulez, hein, puisque le protocole œcuménique, c'est le plus gradé qui... Et là, c'était la plus gradée, du coup. Hein. Et donc, c'est une photo qu'il faut garder, parce que c'était assez, assez unique. Hein. Alors, ce qui a fait débat aussi, c'est Cantique des Cantiques. Littéral ou allégorique ? On pourrait faire un vote là entre nous. Hein, voilà. Littéral ou allégorique ? Voilà, vous savez qu'en fait, c'est un livre qui permet plusieurs lectures. Voilà, il y a bien sûr une lecture allégorique de Dieu qui aime son peuple, de Jésus, le bien-aimé, qui aime son Église. Mais il y a aussi une lecture de premier degré qui valorise la sensualité. Il y a un plein livre dans la Bible pour valoriser la sensualité là, entre l'homme et la femme dans le consentement, qui font écho dans un jardin à Genèse, dans un autre jardin. Vous voyez ? Oui. Et oui. Et ça, c'est la vraie bonne question. Ça fait dans la Bible que la sexualité est un don de Dieu pour l'humanité et pas une concession. Voilà. C'est lui qui nous a créé être sexués, mâle et femelle, il les créa. Donc c'est très important en fait. Et donc, quand il y a eu la sortie de la tobe, elle a failli ne pas être diffusée en milieu catho parce que l'introduction suggérait que peut-être il y avait autre chose que la lecture allégorique de possible. Et donc là, ça a failli ne pas le faire. Aujourd'hui, les exégètes ont beaucoup travaillé, et même en milieu catholique, on dit que les deux lectures sont bienvenues. Voilà, hein, du coup. Hein. Ensuite, il y a la question, bien sûr, de Romains 3, 28 sur la justification par la foi. D'accord ? C'est ce passage-là, vous le savez, il y a 500 ans, en retraduisant ce passage, que Luther devient protestant, d'accord ? Et donc, dans sa traduction en allemand, auf Deutsch, hein, il va mettre « c'est par la foi seul que nous sommes justifiés ». Il va bien, s'il pouvait le stabiloter, il l'aurait stabiloté. Mais voilà, il explicite, il souligne ce qu'il a pu comprendre, d'accord ? C'est par la foi seul. Donc, c'est poser la question en traduction œcuménique. Comment est-ce qu'on va faire, d'accord ? Alors, ils ont trouvé cette solution. Ils n'ont pas gardé « seul », mais il y a une note qui dit « cet ajout, seul, ne trahit pas la pensée de Paul. Du point de vue linguistique, cette adjonction est même nécessaire. » Voilà. Donc, vous voyez, alors, ils ne l'ont pas mis dans le texte, mais ils ont dit que c'était bien ça, l'esprit du texte, de dire que c'était la foi seule, ici. Hein. On a beaucoup débattu sur la traduction du verbe « sauver ». Ça va vous étonner, mais en fait, le grec est très riche. Et là, les traducteurs voulaient choisir d'après un peu leur tradition. Hein. Le verbe « sauver », est-ce que c'est « ceux qui sont sauvés »,« ceux qui sont en train d'être sauvés »,« ceux qui seront sauvés ». Je vous donne un exemple très concret. 1 Corinthiens 15, 2, Nouvelle Bible Seconde, protestant, « vous êtes sur la voie du salut ». Darby, « vous êtes sauvés ». Bible de Jérusalem, « vous vous sauvez ». Et Tob, vous serez sauvés. Wow. On ne dit pas la même chose.
Ah, non.
On ne dit pas vous vous sauvez. Alors là, vous comprenez que ce n'est pas une traduction protestante. Hein. Mais le grec est très riche. Hein, et c'est vrai qu'il permet en fait plusieurs acceptions de sens. Et donc, l'évangile que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés. Les protestants aimaient bien ce vous êtes sauvés, d'accord ? Et les catholiques préféraient soit le futur, soit le vous vous sauvez. Hein. Et ça a montré du coup. Alors, pour la nouvelle français courant, on a mis vous êtes sur la voie du salut. Comme ça, le curseur, vous le placez où vous voulez. Vous y êtes sur la voie, vous y êtes maintenant, ou vous y serez. Voilà, vous placez le curseur là où vous voulez. Et il y a eu aussi la discussion sur justifier. Justifié, qui revient tellement souvent dans les lettres de Paul, hein, d'accord ? Eh bien, on ne le rendait pas de la même manière. Les catholiques disaient, voulaient le traduire, donc on peut tous traduire justifié, ça on est d'accord. Mais si on veut le dire autrement, rendre juste et devenir juste, rendu juste, devenu juste, ça c'était catho, d'accord ? Et du côté protestant, c'était reconnaître juste. déclaré juste. Je suis reconnu juste, déclaré juste. On peut toujours dire que si Dieu vous déclare juste, c'est parce que vous l'êtes. Mais déclaré juste paraissait un peu trop faible à nos collègues catholiques. Alors on prend l'exemple de 1 Corinthiens 6, 11. Mais vous avez été purifiés, vous avez été mis à part pour Dieu, vous avez été déclaré juste au nom du Seigneur Jésus, ou bien vous avez été rendu juste, vous êtes devenu juste. Vous voyez que c'est aussi une question de curseur. Où est-ce qu'on place le curseur ici sur la justification ? Et ça se présente dans des tas d'endroits dans Paul. Donc voilà à quoi on a dû faire attention, le genre de passage. Mais finalement, on a toujours réussi à trouver une traduction qui convenait à tout le monde, d'accord ? Il n'y a pas eu besoin de comité d'arbitrage. En plus du texte, il a fallu faire attention, je vous l'ai dit, hein, du coup, à la présence de notes ou pas. On a dû réfléchir à ça ici. À la question du canon, donc là aussi, on a proposé, hein, je vous en ai déjà parlé. Et puis, l'imprimatur. Là, il y a deux choix très différents. La TOB qui a fait le choix de ne pas demander l'imprimatur, elle est la toute première. L'imprimatur, c'est le magistère catholique qui dit « Cette Bible, elle est cachère. Cette Bible, vous pouvez la lire, elle est conforme. Allez-y, feu vert. » Ça vient de la conférence épiscopale de chaque pays. Il faut la demander à la conférence épiscopale de chaque pays. Et la TOB, délibérément, ne l'a pas fait. Elle est la première traduction interconfessionnelle et elle se dit « On va appartenir à tous. Si on met l'imprimatur, on va faire peur aux protestants. » Et donc, du coup, la TOB délibérément ne l'a pas fait. La Nouvelle Français Courant, 40 ans étaient passés, le mouvement œcuménique était avancé. Et là, par contre, on l'a demandé. Là, c'était l'inverse, c'était pour que les catholiques entendent que l'œcuménisme, c'est tout à fait orthodoxe, c'est tout à fait magistériel. Et on peut utiliser donc une Bible interconfessionnelle en étant dans les clous. Voilà, vous voyez, c'était pas la même démarche parce qu'on était 40 ans après. Donc, elle a l'imprimatur, je me souviens avec beaucoup d'émotion, la visite à la conférence des évêques, moi, fille de Huguenot, persécutée aux galères, de rentrer donc devant cette commission pour la doctrine de la foi et de demander l'imprimatur, du coup, pour cette Bible-là. On a eu une bonne discussion, c'était intéressant. Alors, je voudrais vous dire un petit mot de conclusion, comme ça on aura encore un peu de temps pour éventuellement des questions. Voilà, je vous ai partagé donc cette citation hein, tout à l'heure de Congar au moment où on a remis du coup la Bible, hein, d'accord. C'était l'épître aux Romains, hein, c'était la toute première, et on ne peut que se réjouir de ces Bibles interconfessionnelles parce que la Bible a tellement été instrumentalisée dans nos guerres, dans nos débats, dans nos, voyez, on s'en est servi vraiment comme arme. Donc on ne peut que se réjouir qu'il y ait enfin, en fait, on va dire un texte, hein, comme l'a très bien écrit Jean-Paul II, ceux qui se rappellent quelle influence les débats autour de l'écriture ont eu sur nos divisions, surtout en Occident, peuvent comprendre l'avancée notable que représentent ces traductions communes. Alors du coup, je vais conclure là plutôt avec deux penseurs que j'aime bien. C'est d'abord Paul Ricoeur. Voilà ce qu'il nous partage. Quand nous naissons, nous survenons au beau milieu d'une conversation qui est déjà commencée et nous y apportons à notre tour notre contribution. C'est valable pour les traducteurs, mais c'est aussi valable en fait pour chacun d'entre nous, là où on en est dans le mouvement œcuménique. On a été précédé de pionniers, on a été précédé des générations précédentes, mais nous aujourd'hui, qu'est-ce qui est devant nous ? Qu'est-ce qu'on va faire au sein de ce mouvement œcuménique dans la collaboration interconfessionnelle ? Eh bien, à notre tour, de prendre notre part, d'apporter à notre tour notre contribution. Et là, l'esprit peut nous aider aussi pour être créatif. Et on peut, en effet, encore inventer des tas de nouvelles formes, si vous voulez, chacun d'entre nous, prendre notre part. Et puis, je laisse le dernier poème, peut-être, pour après les questions, s'il y a peut-être quelques questions de précision. Alors, je voudrais peut-être terminer par un très beau poème de Christian Bobin sur la Bible. La Bible, un livre impossible à tenir entre deux mains calmes, pour une lecture sage, lointaine, il s'envolerait aussitôt, éparpillerait le sable de ses phrases entre les doigts. On prend le vent entre ses mains et très vite on s'arrête comme au début d'un amour. C'est ce que je vous souhaite dans votre lecture œcuménique de la Bible. Et je vous remercie de votre attention. Merci.